Histoire vivante. Anaïs Kien.
Il y a 80 ans, la Deuxième Guerre mondiale n'était pas tout à fait terminée, mais le nazisme, en tant que régime d'État, lui, disparaissait et serait bientôt jugé par le tribunal de Nuremberg. Le nazisme, on en parle beaucoup et souvent parce qu'il a tué dans des proportions inédites, guidé par un racisme destructeur. Mais comment s'est-il construit ? Comment le nazisme s'empare d'abord de la société allemande ? Johann Chapoutot, Christian Ingrao et Nicolas Patin ont signé un livre collectif, Le Monde nazi, aux éditions Talendier. Ils nous racontent en 5 épisodes ce qu'on en sait aujourd'hui. Épisode 1, Nazisme, une vision du monde. Depuis son apparition, le nazisme intrigue et sidère. Historiennes et historiens s'interrogent sur les raisons de son succès. Le coût de la défaite allemande lors de la Première Guerre mondiale, la crise économique des années 30 ou encore le charisme d'Hitler. La recherche avance et les facteurs d'explication sont multiples. Le nazisme relie l'histoire, s'empare des sciences et élabore un nouvel ordre social. Au procès de Nuremberg, ils sont 24 dignitaires nazis sur le banc des accusés, parmi lesquels Hermann Göring, Ernst Kaltenbrunner ou encore Alfred Rosenberg. Hitler est mort dans son bunker quelques mois plus tôt, le 30 avril 1945. Pourtant, peut-on attribuer à un si petit groupe de personnes la construction et la mise en œuvre de la pensée nazie ? C'est Johann Chapoutot, historien et spécialiste de la construction intellectuelle du nazisme, qui nous répond.
C'est ce qu'on a tenté de faire dès les années 30, à vrai dire, pour rendre lisible ce phénomène surprenant pour toutes les populations européennes. On a réduit de manière médiatique et ensuite pédagogique le nazisme à ce qu'on a appelé dès le début l'hitlérisme. C'est un mot qui fleurit dès les années 30, tout simplement pour rendre intelligible ce qui, sinon, était effectivement trop complexe à comprendre, puisque c'est diffus, c'est profus, il y a une multiplicité d'énonciateurs intellectuels et idéologiques qui contribuent à la construction du nazisme, donc la réponse est non. De fait, réduire tout cela à la seule personne d'Hitler ou à un petit groupe autour de lui ne rend pas compte des choses, puisque... Si on parle de la construction idéologique, par exemple, vous avez des milliers de locuteurs et des milliers de scripteurs qui, de la haute fonction publique à l'université, en passant par le journalisme, l'armée, la police, etc., et des essayistes divers, contribuent à l'édification du monde nazi et de cette vision du monde nazi. Le constat de départ, c'est le constat d'un épuisement, d'un étiolement, voire d'une disparition prochaine de l'Allemagne. Il faut voir que le nazisme est une vision du monde. Je reprends ce terme de vision du monde que les nazis emploient eux-mêmes, Weltanschauung, qu'ils ont emprunté à la philosophie de la connaissance du 19e siècle. C'est une vision du monde qui est à la fois très angoissée et partant également très anxiogène. Le constat de départ, c'est que l'Allemagne, de toute éternité, enfin depuis des millénaires, la race germanique qui se confond pour avec l'Allemagne, est assiégée, menacée, attaquée, par divers éléments allogènes d'un point de vue biologique, les Slaves, les Juifs et d'autres races ou contre-races ou para-races étrangères qui veulent tout simplement l'extermination de la germanité. Donc ce constat, c'est ça. Et ce postulat de départ vient aux yeux des nazis expliquer tous les malheurs qui jalonnent à leurs yeux l'histoire de l'Allemagne, l'histoire de la population allemande, l'histoire de la race germanique, à commencer par l'évangélisation chrétienne qui a été au fond, selon eux, une judaïsation de la germanité, jusqu'à évidemment la grande crise de 1929 et des années suivantes, en passant par la guerre de 30 ans, en passant par l'hypermodernisation trop rapide à partir de 1871 et évidemment la guerre et la défaite.
Des ennemis dans le passé et dans son présent, le nazisme en a beaucoup. Et tous ses adversaires contribuent à définir la germanité, ce qui est germanique et ce qui ne l'est pas, ce qu'il faut défendre et ce qu'il faut combattre. Johann Chapoutot.
Les nazis prétendent définir scientifiquement, par les acquis de la génétique naissante, par les acquis des sciences naturelles contemporaines, ce qu'est l'essence germanique. C'est une essence biologique à leurs yeux. Ce n'est pas culturel, ce n'est pas linguistique, ce n'est certainement pas politique. Hein, ça, la définition politique du groupe humain, ils laissent ça à la Révolution française et ils vomissent dessus abondamment. Non, la définition est biologique, elle est déterministe du point de vue de la nécessité naturelle. À leurs yeux, il y a une essence biologique germanique qui fait l'objet d'une forme de continuisme historique depuis les temps les plus reculés de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Une essence germanique, une identité biologique qui a été attaquée, corrodée, parfois mélangée sur certaines franges par des invasions culturelles et biologiques venues de l'extérieur qui sont venues gâter cette essence germanique, cette biologie germanique, cette race. De leur point de vue, la mauvaise race chasse la bonne, le mauvais sang chasse le bon, et donc il faut éviter tout mélange biologique, tout mélange des sangs. Or, les millénaires d'histoire germanique sont, hélas, à leurs yeux, jalonnés par de tels mélanges qui ont produit des formes de dégénérescence biologique, lesquelles se sont exprimées par des phénomènes de décadence culturelle, bien visibles dans, par exemple, la conquête de la germanité par le christianisme, puis par l'idéologie démocratique et libérale contemporaine. Et c'est à cela qu'il faut mettre fin. Donc, ce qui est très intéressant dans la vision du monde nazi, c'est que c'est un opérateur d'intelligibilité très puissant. C'est-à-dire que vous avez un portrait de ce qu'est la germanité, un état qui est à leurs yeux lamentable, problématique et auquel il faut remédier. Et précisément, puisque l'on a pu formuler une étiologie de cette dégénérescence et de cette décadence, une étiologie vraiment au sens médical, hein, c'est-à-dire que on a pu identifier les causes et dès lors on peut désigner les remèdes et appliquer ces remèdes, cette médication à la race germanique. Et c'est tout le projet nazi qui est un projet en interne, si vous voulez, de régénération sociobiologique de la race germanique et de l'Allemagne, par l'application à cette substance biologique des acquis scientifiques et techniques les plus récents des sciences naturelles et de la médecine. Et en l'occurrence, il s'agit là de redresser le bois torve de la biologie germanique par une politique d'eugénisme très ambitieuse, qui va détruire certains aspects de la germanité, qui sont malades, corrodés, et qui en voie de putréfaction, si vous voulez. Donc ça doit être écarté, ça doit être amputé, et au contraire, doit être encouragé, évidemment, la procréation de ce qu'il y a de plus sain dans la race. Et évidemment, ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est le mélange. Donc vous avez la volonté de créer un dispositif à la fois biologique et juridique, de normes qui sont médicales et légales, qui vont régénérer la race germanique.
L'histoire a la part belle dans la pensée nazie. Les sciences aussi. Des sciences pliées au service de la distinction raciale et de la capacité d'agir du régime nazi.
Il faut voir que les nazis émergent comme phénomène, à la fois culturel, politique, au cœur de l'Europe du XXe siècle, dans une Europe qui est structurée par le développement des sciences contemporaines, le développement des institutions universitaires, le développement des publications, etc. Et ils participent de ce monde-là. C'est quelque chose qui est un peu pénible pour nous, hein, qui sommes toujours soucieux de distinguer le nazisme comme phénomène archaïque de la modernité que nous habiterions et qui n'aurait rien à voir avec cela. Mais force est de constater que le nazisme apparaît dans un pays qui est le pays le plus alphabétisé d'Europe, avec quelques-unes des meilleures universités du monde, c'est la patrie des prix Nobel, de la science, de la technique, sans même parler de la philosophie, de la littérature et de la musique. Tout cela est bien connu. Et les nazis sont très fiers de cela. Ils estiment que l'excellence intellectuelle de l'Allemagne signe une des supériorités de la germanité. Et par ailleurs, eux-mêmes se définissent comme étant la pointe avancée de l'âge de la science. Ils sont très scientistes au fond, très scientistes, dans la mesure où, je cite Rudolf Hess, qui était le numéro 2 du parti, le successeur désigné d'Hitler à un certain moment, et Hitler lui-même, l'un et l'autre disent, le nazisme, je cite, c'est la biologie appliquée. C'est la biologie appliquée ou c'est, autre variante, de l'anthropologie raciale, c'est-à-dire la raciologie appliquée. Autrement dit, quand ils disent cela, ils disent que leur discours n'est pas susceptible d'être interrogé par le questionnement démocratique, le débat, le colloque des raisons, bref. Ce n'est pas susceptible d'être contesté ou d'être combattu par l'argumentation, puisque le discours nazi, qui est à leurs yeux parfaitement scientifique et scientiste, s'impose nécessairement. De la même manière que la loi de la gravité s'impose à tout individu qui saute d'un balcon. On peut volontiers en débattre ou le nier, mais il reste qu'on va quand même tomber et s'écraser 5 étages plus bas. Donc les nazis sont très soucieux de rappeler que ce qu'ils promeuvent en termes de diagnostic et de traitement n'est pas sujet à débat. L'orientation des nazis, elle est crantée ou elle est hantée sur le développement des sciences naturelles de l'époque. C'est-à-dire que quand les nazis parlent de déterminisme biologique, parlent de dégénérescence biologique, parlent de nécessité d'une régénération socio-médicale du corps allemand, ils s'inscrivent dans un discours dominant de l'époque, qui est allemand, mais certainement pas qu'allemand, puisque les idées structurantes du nazisme, c'est ce que j'ai pu montrer ailleurs, ne sont ni d'invention allemande, ni de facture nazie. C'est-à-dire que ces idées de racisme, d'antisémitisme, de dégénérescence, d'eugénisme, de darwinisme social, etc., sont plutôt élaborées dans d'autres pays et dans d'autres capitales que celles de l'Allemagne. En l'occurrence, plutôt les métropoles coloniales, la France, la Grande-Bretagne et à certains égards, les États-Unis, qui sont un empire colonial à domicile, si vous voulez, avec une forte présence autochtone et allogène importée, et qui sont des pays qui sont obsédés par la ségrégation et l'empêchement du mélange des races. C'est dans ces pays-là que ces thèmes-là, ces discours-là se développent, que les nazis reprennent à leur compte, et de ce point de vue-là, ils s'inscrivent, comme on dirait aujourd'hui, dans une forme de mainstream. Ce qui rend d'ailleurs la proposition nazie, en termes sociobiologiques, tout à fait acceptable, voire désirable du point de vue des élites politiques et patrimoniales étrangères.
Le parti nazi, le NSDAP, c'est le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, fondé en 1920. National et socialiste. Comment entendre l'association de ces deux termes ?
Il faut voir que l'union de ces deux termes, national et socialiste, là encore, n'est pas une invention nazie et certainement pas une invention allemande.
Johann Chapoutot, historien.
Le creuset de ces idées-là se situe plutôt dans la France des débuts de la Troisième République, à une époque où une idéologie universaliste des droits de l'homme et de la République parlementaire a sécrété, au fond, disent Sternel, ses anticorps dans un imaginaire ultranationaliste, très particulariste et plus soucieux de justice sociale que ne l'était en réalité une Troisième République très bourgeoise. Donc l'idée nationale-sociale, sociale-nationale, s'est vraiment matérialisée, cristallisée dans la Troisième République des années 1880-90. Également chez les contestataires italiens qui s'opposaient au libéralisme italien, très peu porté sur la justice sociale également. Et c'est cette idée-là qui est reprise en Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale, dans un contexte où ces idées ont pu se sédimenter un petit peu partout en Europe, et où, dans le contexte de la défaite et de la révolution allemande de 1819, de manière très pragmatique et très opportuniste, des mouvements politiques se créent qui veulent capter à leur profit, et au profit de la cause nationale, voire nationaliste, une clientèle politique un peu flottante, comme ça, qui serait tentée plutôt par la solution internationaliste offerte, en l'occurrence, par le mouvement spartakiste qui devient le Parti communiste à la fin de 1918, par le grand exemple de la grande révolution bolchevique, la grande lueur à l'Est, etc., qui est vraiment l'avant-veille, hein, puisque ça date de l'année précédente, 1917. Et donc pour éviter ce que les élites patrimoniales, militaires, politiques, de droite redoutent, puisque tout en Allemagne, c'est-à-dire le basculement de l'Allemagne dans la révolution bolchevique, qui n'est pas une hypothèse farfelue à l'époque, hein, dans le contexte que l'on connaît à l'automne 1918, vu la proximité de l'Allemagne avec la Russie, et vu également ce qui se développe en Hongrie avec la République des conseils de Béla Kun au printemps 19, mais aussi en Bavière. Il faut imaginer qu'on a en Bavière une république soviétique au printemps 1919, ce qui est absolument extravagant ou ébouriffant au regard de l'histoire religieuse et politique de la Bavière qui s'apparente un peu à celle de la Vendée en France, si vous voulez. Un catholicisme très tridentin, très nationaliste, très conservateur, très tradit, etc. Et c'est précisément là qu'une révolution bolchevique se développe. Donc face à ça, face à ce qui apparaît véritablement comme une abomination, une horreur hein, aux élites en place, il y a des leurres politiques qui sont envoyées comme ça dans l'espace social. Et ces leurres politiques, ce sont littéralement des dizaines de petits mouvements d'extrême droite, ultranationalistes, antisémites et racistes, cela va de soi, qui s'intitulent ou s'auto-intitulent Parti ouvrier national, Parti socialiste national, Parti national socialiste, etc., pour précisément capter ces masses prolétariennes, pour aller vite, qui seraient tentées par la solution communiste et bolchevique, et capter leur énergie au profit de la cause nationaliste. Et le parti, alors, national socialiste des travailleurs allemands, vous voyez le redoublement, hein, très marketing, très publicitaire de ces qualités-là. On est à la fois national et allemand, mais on est en même temps socialiste et des travailleurs, au cas où on n'aurait pas compris. Eh bien, c'est un de ces mouvements qui sont envoyés comme ça dans l'espace public à titre de leurre, à titre d'attrape-nigaud, au fond, hein, pour ramener au bercail nationaliste des gens qui seraient tentés par la solution communiste. Et c'est l'origine, si vous voulez, de ce parti nazi qui n'a jamais pris au sérieux, mais alors ne serait-ce qu'une seconde, le caractère socialiste ou des ouvriers dans le nom même de son parti. C'est-à-dire que dès le début, le parti nazi est très clairement du côté du patronat bavarois. C'est un parti bavarois qui est en opposition frontale avec tous les grévistes qui s'élèvent contre la vie chère, etc., la grève des cheminots, la grève des tramways, etc., en Bavière. Les nazis sont des casseurs de grève dès le départ, de la même manière que le grand frère et le grand modèle fasciste au sud est un rassemblement de cogneurs, de nervis, qui sont des casseurs de grève, et qui sont, pour cette raison-là, financés par le patronat, les agrariens, et choisis par les libéraux.
Le nazisme n'aime pas la Révolution française et ses héritages, mais il s'approprie l'énergie qu'on entend quand on prononce ce mot de révolution. Johann Caputo, co-auteur du Monde nazi aux éditions Talendier.
Il s'agit de rhétorique politique. En l'occurrence, les nazis sont des pragmatiques, ce sont des gens qui sentent l'esprit du temps et qui essaient de faire avec. En l'occurrence, ce sont des as de ce qu'on n'appelle pas encore le marketing politique. Ils travaillent avec ce qui circule dans l'espace social. Et ils sont obligés de constater, même s'ils n'aiment pas cela, et même s'ils sont des réactionnaires patentés, c'est-à-dire l'exact contraire de révolutionnaires, hein, du point de vue social, du point de vue culturel, du point de vue du rapport au temps, tout indique le passé chez les nazis, certainement pas l'avenir, certainement pas l'ouverture sur l'avenir qui est quand même définition de la révolution depuis 1789. Donc même s'ils sont foncièrement réactionnaires, de fait, ils sont bien obligés de constater que depuis la Commune de Paris et surtout la révolution bolchevique de 1917, le terme de révolution a le vent en poupe, y compris à droite, chez les thuriféraires et les promoteurs de la révolution conservatrice. Dès lors, ils vont se sentir obligés d'utiliser ce terme-là pour capter à leur profit sa valence politique et sa force mobilisatrice. Et donc, ils vont parler de révolution nationale, hein, le terme de National Revolution qui va être repris ensuite par Vichy est en circulation dès 1933. Ils vont parler de révolution nationale, de révolution nationale socialiste, mais de manière très claire, et Goebbels le dit dans un discours à la radio le 1er avril 1933, nous avons effacé 1789 de l'histoire. C'est-à-dire que 1789 est une abomination. C'est ce moment où un groupe humain, en l'occurrence la France, une partie de la France, s'est doté d'une nouvelle manière d'être ensemble, en l'occurrence d'un contrat social qui disposait que on était membre de ce groupe, la nation française, par volonté libre et éclairée. Et que dès lors, on pouvait, comme tout contrat, rompre ce contrat et puis retourner à l'état de nature ou aller voir ailleurs si on avait envie d'adopter notre nationalité. Ça, c'est quelque chose qui, pour les nazis, est une abomination et une abjection. Le groupe humain ne s'auto-détermine pas. On ne décide pas d'être allemand, on ne décide pas d'être français, on l'est par nature. Hein. On revient à cette idée du déterminisme biologico-racial. Donc, l'idée même du contrat social est une obscénité pour les nazis. Et le couple Robespierre-Rousseau, Rousseau pour le contrat social en 1763 et Robespierre, qui est présenté comme une espèce de factotum qui met en pratique le contrat social de Rousseau, tout cela est vraiment rejeté avec la dernière vigueur. Ce qui est très intéressant dans le nazisme en termes d'histoire des idées politiques, c'est qu'ils sont éminemment contre-révolutionnaires, mais contrairement aux contre-révolutionnaires du premier âge, des années 1790-1800, ils ne convoquent pas la théologie, c'est-à-dire Dieu, ils convoquent la biologie, c'est-à-dire la détermination scientifique et la nécessité naturelle pour définir l'identité des groupes et du membre du groupe. Autrement dit, à leurs yeux, ce n'est pas moi qui donne sens et existence au groupe, par ma volonté libre et éclairée, mais évidemment, c'est le groupe, c'est-à-dire la race, qui me donne sens et existence puisque j'y suis né et que j'y reste. Les nazis sont tellement anti-révolutionnaires et contre-révolutionnaires qu'ils vont utiliser le terme de révolution au sens pré-révolutionnaire du terme. On le sait en étymologie, la Révolution française inaugure un nouveau sens du terme révolution qui est l'ouverture vers l'infini du devenir et vers le champ des possibles. Alors que avant 1789, c'est un terme qui est figé dans son étymologie latine, le revolvere, qu'on retrouve dans revolver, c'est-à-dire quelque chose qui tourne sur lui-même et qui revient toujours à l'origine. Et les nazis ont cette ambition-là. La race germanique doit revenir à l'origine. Ils ne veulent pas créer un homme nouveau. L'idée même d'homme nouveau leur est, étrangère. Ils veulent revenir à cet archétype de la race qui est l'archaïque racial, c'est-à-dire l'homme germanique des origines. Donc dans l'usage même, si vous voulez, qu'ils font du terme révolution, ils pointent vers un usage pré-révolutionnaire du terme.
On entend parfois que l'écologie est déjà comprise dans la pensée nazie. Souvent d'ailleurs pour disqualifier l'écologie, voire ses défenseurs. Parce que la nature apparaît dans certains discours d'Hitler, parce qu'on le disait végétarien. Pas vraiment suffisant pour en conclure que le parti nazi serait pour quelque chose dans l'apparition d'une conscience environnementale. Johann Chapoutot.
En fait, il n'y en a pas du tout. C'est ça qui est fascinant, c'est que dans l'espace public contemporain, j'entends, depuis les années 90, on entend, c'est même devenu une forme de plaisanterie à moitié mondaine dans les dîners, telle personne qui est végétarienne se verra rappeler que Hitler l'était, ce qui n'est pas le cas, il n'est pas végétarien, il évite certains types de viande, mais sinon il en mange d'autres, il mange des œufs, donc... On fait vegan plus dogmatique, si vous voulez, que cette personne. Et quant à l'écologie des nazis, moi, je la cherche encore. C'est-à-dire que j'avais publié maintenant presque une quinzaine d'années dans la revue 2021, enfin 20e siècle à l'époque, un article sur nazisme et écologie. J'avais intitulé « Les nazis et la nature, protection ou prédation ?» pour l'interrogation, en montrant que il n'y avait pas de protection, il y avait de la prédation en permanence. C'est-à-dire que les nazis considèrent ce que nous appelons la nature, c'est-à-dire le vivant et les espaces d'accueil du vivant, comme étant des fonds d'énergie dans lesquels on va puiser jusqu'à l'épuisement. Ils l'ont fait à satiété. Il n'y a pas pire bétonneur, destructeur de forêts, excaveur de montagnes et destructeur de la nature que les nazis qui ont saturé l'agriculture de chimie et de mécanique, qui ont poussé l'épuisement des forêts à un niveau jamais atteint dans l'histoire de l'Allemagne, qui ont détruit des montagnes entières pour y loger leurs usines de fusées V2, qui ont ensablé et bétonné des zones humides protégées pour construire leurs hôtels de la KDF. Bref, il n'y a aucune, si vous voulez, sensibilité ou intuition protectrice ou environnementaliste de quelque ordre que ce soit. Les nazis considèrent réellement la totalité du réel comme un fonds d'énergie à puiser jusqu'à l'épuisement. Et ça va évidemment jusqu'à la logique du camp de concentration à partir de 1939, où on considère bien entendu les détenus comme une simple ressource humaine dans laquelle, là encore, on va taper jusqu'à la mort.
Le nazisme s'insinue aussi dans les pratiques religieuses et leurs festivités, dans une Allemagne partagée jusqu'ici entre catholiques et protestants. Christian Ingrao, directeur de recherche au CNRS.
Par exemple, on va dire, appelons ça les lobbyistes néo-païens ou néo-chrétiens nazis. Hein, il y a des mouvements qui, comme le mouvement des chrétiens allemands ou les mouvements néo-païens, qui luttent pour au moins que ces cérémonies soient germanisées. Par exemple, que Noël ne soit plus spécialement la fête de la naissance de Jésus, mais soit le Sonnenwende, hein, c'est-à-dire la fête du solstice d'hiver, hein, qui intervient à ce moment-là et qui pourrait être fêtée à la fois par les adorateurs, les nouveaux adorateurs d'Odin, et en même temps les adorateurs de la croyance dans l'Allemagne. Il y a dans l'Allemagne des années 20 et des années 30 tout un ensemble de mouvements qui pour certains se disent wagnériens, qui pour d'autres s'appuyant sur la mythologie et la raciologie nordiciste veulent revenir prône au retour à une religion originelle qui serait une religion naturaliste avec la communion avec la nature et d'un autre côté le retour à d'anciennes divinités. On en sent les traces par exemple dans la SS hein, avec l'essai d'adoption, en tout cas à titre symbolique, de l'alphabet runique, hein, les deux S de la SS étant cela. Et on voit, au moins jusqu'en 1939, les grands dignitaires de la SS participer à des fêtes et mettre en place des cérémonies qui sont de l'ordre de ce néopaganisme. On connaît comme cela, il y a un baptême néo-païen qui se met ainsi en place. Il y a des cérémonies d'enterrement et de décès. Et jusqu'en 1942, par exemple, tiens, pour vous donner un exemple très simple, le 4 juin 1942, Reinhard Heydrich décède des suites d'un attentat qu'il a subi le 27 juin. Dans son agenda de rendez-vous, Heinrich Himmler marque Heydrich et marque utilise un signe runique hein, pour signifier la mort en face de son nom. Alors, bien sûr qu'il y a un essai de ringardisation du christianisme. Il n'en reste pas moins que le néopaganisme ne concerne qu'une infime minorité de personnes, un cœur militant très minoritaire au sein du national-socialisme, hein, présent dans la SS, bien sûr, avec une vraie pression de la part de Himmler et de son entourage pour que les militants nazis sortent de l'église. Hein, on appelle ça une Kirchenaustritt, hein, c'est la sortie d'église. On paye plus son impôt ni aux institutions catholiques ou protestantes, et on fait partie d'un mouvement qu'on appelle le mouvement Gottglaubig, croyant en Dieu, mais ce mouvement ne concerne que vraiment les franges les plus militantes hein, du national-socialisme. Pour le reste, les liens entretenus par les populations catholiques et protestantes à leurs églises restent quand même très forts, et on les voit de temps en temps réapparaître en termes de réaction et de refus, de critique, en tout cas d'un certain nombre de mesures que les nationaux-socialistes mettent en place.
Merci à Christian Ingrao et Johan Chapoutot. Dans le prochain épisode, les premiers nazis et la nostalgie de la Première Guerre mondiale. Histoire vivante, c'est Anaïs Quien avec Samuel Morier-Genoux à la réalisation.